Bonjour, alors aujourd'hui lundi, eh bien je reviens vers vous avec un contenu toujours en lien avec la détente, puisque c'est un peu la thématique sous-jacente, hein. L'objectif à atteindre, c'est de pouvoir gérer son temps de manière optimale et rester autant que possible détendu. On a vu toutes les raisons, hein, puisque forcément ça a un impact sur nos capacités, à la fois intellectuelles, émotionnelles, mentales. Ça a également un impact sur notre santé, ça a un impact sur le taux d'hormones positives qui vont nous faire du bien, les hormones du bonheur, ou au contraire, quand on est stressé, on va avoir des hormones qui vont être déployées dans notre corps, du cortisol, qui va justement réduire nos capacités et nous fatiguer davantage. Donc plutôt que fonctionner dans un stress, en fait, l'idée c'est effectivement d'être détendu. Alors on en a déjà parlé pas mal, mais je vais revenir sur une question qui vient fréquemment. C'est la question de la méditation. Moi j'entends beaucoup de gens qui me disent « moi j'ai du mal, je sais pas faire ça, je sais pas comment faire, etc. » Et ce que je voudrais donner ici comme info, c'est que justement la méditation, c'est loin d'être une pratique inaccessible et même pas une pratique complexe en fait. Il suffit d'être dans un état de conscience et de se mettre à respirer le plus posément et le plus profondément possible. En fait, c'est aussi simple que ça, en tout cas mon approche. Après, il y a différents niveaux de conscience, il y a des techniques qui viennent travailler notamment sur nos croyances, certaines sont spirituelles pour certaines personnes, d'autres sont religieuses, d'autres vont utiliser des couleurs pour méditer, faire des visualisations. On peut méditer sur un mot, sur une phrase. En fait, l'important finalement, c'est de mettre une intention qui nous fasse du bien, je pense. Et c'est ça qui va être vraiment très très puissant. C'est que pour autant qu'on ait décidé, qu'on croit fermement à ce qu'on est en train de faire et au bien que ça peut nous faire ou faire autour de nous, eh bien la méditation va nous permettre effectivement d'atteindre notamment un niveau de détente, mais aussi de dégager une autre vibration, entre guillemets. Alors cette vibration, ça va partir effectivement d'une intention. Donc cette intention, eh bien, on va forcément la choisir mentalement. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on va se mettre dans un état de mental trop actif. Au contraire, on va mettre notre mental en focus sur une intention. Et on va laisser défiler toutes les pensées, c'est-à-dire que des pensées vont forcément au début venir s'accrocher en fait, et on va simplement les laisser passer. Au lieu de s'y accrocher et commencer à réfléchir, au contraire, on va juste observer qu'elles passent. Un peu comme si on était une vache qui regarde passer le train. ça n'empêche pas d'être là à brouter son herbe. Et ben nous, c'est un peu la même chose. On va se mettre un petit peu en mode observateur de ce qui se passe, non pas à l'extérieur de nous, même si on peut, mais surtout à l'intérieur de nous. Ça peut être les deux en fait. On peut avoir un regard intérieur et un regard extérieur. Et cette méditation, à partir du moment où elle est tournée vers soi, et notamment sur la respiration corporelle, eh bien, elle va pouvoir générer de la détente, elle va pouvoir générer un état de bien-être, un état de présence en fait. Ce bien-être vient de la présence à l'instant T, ce moment en fait où il n'y a plus de projection dans le futur ni dans le passé, on est vraiment présent à soi-même. Et dans cette présence, eh bien, il y a des choses qui se passent, qui font du bien, qui vont permettre la détente et qui vont simplement amener des choses un petit peu inhabituelles pour certains. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ma première méditation. C'était une méditation accompagnée, donc c'est toujours plus facile. Où en fait, j'étais porté par une voix qui était relativement douce, relativement profonde, et qui me permettait simplement de prendre appui sur cette voix et donc de ne plus penser, de me laisser porter. Et pour beaucoup de gens, je sais que c'est difficile. Le truc, en fait, c'est que la croyance sait que c'est difficile, et le simple fait de croire que c'est difficile vient renforcer la difficulté. Alors que, en réalité, on est tous capables de méditer. On a tous des moments où on se retrouve un petit peu absent à nous-mêmes, où on regarde dans le vide, où on a un blocage quelque part, où on n'est plus trop connecté au présent et on sait plus trop où on est, eh bien c'est une forme d'état de conscience modifié, c'est une forme de méditation. Alors évidemment, l'intention d'une méditation va faire toute la différence, et plus on va pratiquer, encore une fois c'est comme un muscle, eh bien plus on va avoir l'habitude de le faire. Alors moi je pratique la méditation quasiment une heure par jour maintenant depuis un bon paquet d'années, je crois que ça fait plus de 3 ans que je le fais quotidiennement. Avant ça, j'ai géré mes douleurs en faisant ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. En fait, ça n'a rien à voir avec de l'hypnose. Loin de là, en tout cas, passé qu'on nous vend sur le plan un petit peu fun à la télévision, ou même un petit peu danger pour l'hypnose ericksonienne, genre ça doit pas être pratiqué par tout le monde parce qu'on peut soi-disant modifier le comportement de quelqu'un. Il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que l'hypnose en fait ça ne fonctionne que si on est d'accord. Donc on a toujours le libre arbitre, on a toujours l'autorisation implicite en tout cas quand c'est bien fait, finalement de faire un choix. Et donc si la confiance est là et qu'on décide effectivement de se laisser porter par les intentions de quelqu'un d'autre, ça reste un choix, et ça reste un choix dont on peut sortir à tout moment. Donc quand on voit dans des films ou à la télévision que l'hypnose va faire des choses un peu étranges aux gens contre leur volonté, contre leur gré. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Désolé pour Mesmer et compagnie là, mais voilà, si les personnes n'étaient pas simplement dans un état, enfin, il y a une prise de pouvoir en fait dans l'hypnose. Et simplement, bah, sur certaines personnes, ça va marcher. Il y a des personnes qui sont hypnotisables et d'autres pas. Ça dépend de leur niveau d'alerte. Et finalement, bah, il n'y a pas trop de risques. C'est quand même difficile de faire rentrer dans l'inconscient de quelqu'un un message d'action qui va le pousser, par exemple, à aller faire des choses, genre braquer une banque ou je ne sais quoi. Ça, c'est quand même très très peu probable. En tout cas, à ma connaissance. Après, je reste ouvert, mais a priori, j'y crois pas trop. Ah bon, cette parenthèse là étant fermée, la méditation pour moi, c'est en lien avec la pleine conscience. C'est complètement ça. C'est vraiment le fait d'être présent à soi, d'être présent à ce qu'on fait à 100%. Et ça, pour moi, c'est aussi une forme de méditation. On peut être en train de jardiner et être complètement à ce qu'on fait et ne penser à rien d'autre. On peut être en train de faire la vaisselle, on peut être en train de peindre un mur, on peut être en train, je sais pas, de faire n'importe quoi qui soit assez physique finalement, qui ne demande pas beaucoup de neurones, qui ne demande pas beaucoup de réflexion, donc finalement des choses assez simples en termes de gestes, en termes de gestuels, ou même peut-être complexes, ça peut être la création d'une œuvre d'art ou quelque chose comme ça, mais on est connecté à une autre part de soi. Et ça, c'est déjà un état méditatif, et la méditation en soi, elle n'est pas obligatoirement pratiquée en lotus, assis sur une chaîne à clous ou je ne sais quoi. Rien à voir. La méditation, on peut la pratiquer assis, couché, on peut la pratiquer en marchant, on peut la pratiquer comme on veut. C'est juste un état de conscience où on se laisse finalement libre de ne pas penser. Et c'est un exercice qui semble un petit peu difficile puisque effectivement les pensées vont défiler, mais on se met dans un mode observateur, un mode secondaire qui laisse passer ses pensées au lieu de s'y accrocher, tout simplement au lieu de s'y identifier. Alors bon, à partir de là. Moi, j'ai plusieurs. Enfin, je vous avais déjà parlé, partagé un exercice de détente, notamment grâce à un état méditatif. Hein. C'était le fameux scan corporel sur les différentes vertèbres. Ben, je vais encore revenir là-dessus. Je vais revenir surtout sur la respiration. On entend parler de respiration consciente. La respiration consciente, c'est une respiration qui va venir du fond du ventre, c'est-à-dire, enfin, du fond du ventre, c'est-à-dire qu'on va respirer consciemment à partir du ventre. On va augmenter l'espace de notre cage thoracique et augmenter la surface de contact pulmonaire. En fait, la surface d'air avec laquelle nos alvéoles pulmonaires vont être en contact avec l'air, et donc ça va assurer une meilleure oxygénation du corps. Alors simplement pour faire ça, eh bien, il suffit de faire une respiration consciente et bah, d'inspirer le plus profondément possible à partir du ventre en faisant descendre son diaphragme. Alors au début ça paraît étrange, il y a beaucoup de gens qui respirent par le haut du corps, donc avec le haut de la poitrine, et bah, c'est vrai que c'est pas habituel, pourtant c'est ça qui va générer une détente. Il y a une théorie selon laquelle le ventre serait en fait notre deuxième cerveau. En fait il y a autant de connexions au niveau du ventre, de connexions nerveuses paraît-il, qu'au niveau du cerveau. Bon, peut-être pas autant en termes de neurones, mais en tout cas les capacités de connexion. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça marche, mais en gros, il y a un pouvoir inconscient qui se situe au niveau des intestins. Et un pouvoir, on va dire, de contrôle de décision qui est lié à l'inconscient, en tout cas. Et quand on pratique ce type de respiration, eh bien, on va permettre, en fait, à cette énergie instinctive de s'exprimer à travers ce centre-là. Et à partir de là, on va pouvoir atteindre un niveau de détente. Alors, ça va régulariser plein de choses. Ça va régulariser notre rythme cardiaque, donc on peut avoir des palpitations cardiaques, ça peut être impressionnant au début, mais ça n'a rien de grave. En fait, c'est juste une mise au diapason, un ralentissement du rythme qui passe par une accélération avant de ralentir, simplement. Ça dépend un petit peu du niveau de stress de chacun. Et puis, il y a aussi d'autres symptômes tels que la détente. Pour certaines personnes, la fatigue. Quand on pratique ça, on peut se sentir très fatigué au début, c'est tout à fait normal. On peut avoir même la tête qui tourne un petit peu. C'est assez logique, en fait. Simplement, quand on n'a pas l'habitude de respirer comme ça, c'est un peu comme un gros shoot d'oxygène. Les premières fois, ça fait un petit peu étrange. Et puis en fait, on va s'y habituer, ça prend quelques minutes. Et plus on va faire ce genre de choses, et plus on va atteindre rapidement, enfin ça dépend de chacun évidemment, de sa capacité à se mettre dans cet état de détente et d'accueil de soi. Et à partir de là, en fait, on va vraiment être en contact avec notre corps, notre vécu intérieur. Et c'est là, en fait, que des choses vont pouvoir se passer. On peut avoir une douleur et respirer dans cette douleur, par exemple. Moi, une des séquelles que j'ai des suites des opérations que j'ai eues il y a 12 ans, enfin 12 ans, ça remonte jusqu'à 2007 en fait. Enfin, ça fait quand même 10 ans, donc ouais, ça s'est étalé. Et j'ai toujours une sensation un peu particulière, par exemple d'endormissement au niveau du genou, qui est lié simplement au passage d'une nerf sciatique en fait dans ma jambe gauche. Et parfois, en fait, quand je suis tendu, stressé ou que simplement musculairement ça passe, c'est un peu serré, eh bien, je sens en fait quelque chose d'un petit peu endormi en dessous de mon genou. Alors c'est pas un gros problème, mais ça reste désagréable. Il y a quelque chose qui gêne. C'est comme s'il y avait un endroit où il y avait un vide. C'est évidemment étrange comme sensation. Et j'arrive à faire passer ça, en fait, en faisant des respirations conscientes au niveau de toute la connexion nerveuse. Donc, depuis mes vertèbres lombaires jusque, dans le nerf sciatique qui va jusqu'au doigt de pied. Et, très curieusement, en fait, je sens à ce moment-là des petites vibrations, de la détente qui s'installe sur le plan musculaire. J'ai des petites, comme s'il y avait des petites bulles, en fait, qui circulent comme ça. C'est des petites tensions qui sautent. Enfin, en tout cas, mon interprétation, je vais pas chercher à en savoir plus, et finalement, on appelle ça comme on veut. Pour certains, c'est de l'énergie. Pour d'autres, c'est de la détente. Pour d'autres, c'est une réaction nerveuse. On appelle ça comme on veut. Finalement, on s'en fiche un peu. L'important, en tout cas, c'est que, moi, j'ai l'impression que ça me fait du bien. En tout cas, après, quand je fais ça. Après, en général, l'intensité de cette sensation a tellement réduit que quasiment je ne la sens plus. Parfois, même pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, ça ne revient pas. Et donc, je fais ça régulièrement. Et je peux faire ça à travers tout le corps. C'est l'exercice que je proposais la fois passée. Mais ça va au-delà. J'ai découvert un jour des travaux qui expliquaient qu'il y avait différentes couches au niveau du corps. Alors évidemment, il y a la couche physique qu'on connaît bien, c'est notre corps, notre peau. Et puis après, il y a des croyances en fait qui sont liées notamment à la théorie des chakras, qui sont des centres énergétiques dominants. C'est-à-dire qu'il y a plein de centres énergétiques dans le corps. C'est le principe de l'acupuncture, c'est le principe de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le principe des nadis et des nadis pour les Indiens, qui sont en fait les canaux d'énergie pour les Chinois, c'est-à-dire les méridiens. Et sur chaque point en fait où passe le méridien, il y a un endroit qu'on peut stimuler, notamment avec des exercices qu'on appelle du doing ou des choses comme ça en fait, simplement des pressions, des activations, etc. Alors il y a plein de techniques différentes, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait tout ça dépend évidemment d'une personne qui a des compétences extérieures. Et au fil du temps, ce que j'ai développé pour ma part, c'est une conscience du corps qui passe simplement par ma conscience personnelle de mon corps, et peu importe la théorie, peu importe les connaissances techniques, ou ça peut être nécessaire, ça peut être utile en fait, nécessaire je pense pas, mais je pense que ça peut être utile à une connaissance de soi, de se reposer sur la théorie. Mais au final, j'avais fait quelques études, j'ai commencé mes études en médecine à l'époque avant de changer de voie, et évidemment j'ai eu des cours de biologie, j'ai eu des cours d'ostéo, donc d'ostéologie, j'ai eu des cours qui me permettaient vraiment de prendre conscience de la manière dont est constitué le corps humain. Effectivement, j'ai une connaissance à ce niveau-là. Mais je suis pas plus avancé que n'importe qui, et à la base, je réfléchis pas du tout à tout ce que j'ai appris. Au contraire, en fait, je m'en déconnecte complètement, et simplement, je m'appuie sur ce qui me semble juste, ce qui me semble correct. Et je m'appuie aussi sur une expérience personnelle qui a été faite en ostéopathie, où j'ai rencontré un ostéopathe qui travaille, en fait, sur l'ossature, mais de manière peu invasive, c'est-à-dire qu'il fait pas, il me croque pas, j'y vais plus très souvent, d'ailleurs, mais il n'y a pas de craquement d'os, d'articulation, quoi que ce soit. Il n'y a aucun exercice de force. Il y a simplement ce qu'il appelle une reprogrammation de mémoire. Et ces mémoires, en fait, finalement, elles viennent d'où? Eh bien, on les sent, en fait. J'ai appris des techniques de massage au niveau du crâne, au niveau des mains, au niveau des pieds. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a des sortes de petits granulés qu'on peut sentir à certains endroits. C'est comme s'il y avait des grains de sel, en fait, quelque part sur une table. On les sentirait. Là, c'est sous la peau, dans les articulations. Au début, ça fait un peu mal, et puis on les masse, et puis ça disparaît, et puis on sent que il y a quelque chose qui se libère à un autre niveau du corps. Et j'ai remarqué que la respiration permet d'obtenir le même résultat. Ça prend peut-être un peu plus de temps, surtout qu'on doit le faire pour soi-même, mais le simple fait pour ma part d'avoir développé ce type de respiration, ce type de conscience, me permet d'atteindre ce résultat. Alors c'est forcément, quelque part, si on veut rester très pragmatique, un conditionnement de mon cerveau par rapport à mon corps, mais ça fonctionne. Et je pense que la puissance justement de la méditation, c'est ça, c'est qu'on peut choisir en fait, en fonction de ce qu'on croit, la manière dont on va l'utiliser pour nous faire du bien et également pour faire du bien à l'autre. C'est le principe d'une induction harmonique finalement. On va pouvoir harmoniser notre corps au même titre qu'on va pouvoir harmoniser l'énergie d'un lieu par exemple. C'est ce que utilisent les gens qui pratiquent le feng shui ou la géobiologie. Chacun en fonction de ses croyances, en fonction de ses vibrations, de ses sensations personnelles. Alors je suis bien conscient que tout ça peut paraître un petit peu ésotérique. Pour beaucoup de gens, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, la matière, en fait, à l'origine, c'est jamais qu'une concentration d'énergie. Et il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, c'est que parfois, une matière, quand on essaye de l'étudier, le simple fait de l'observer va lui donner un comportement différent. Il y a des lois spécifiques par rapport à ça, c'est assez intéressant. Et on a remarqué, par exemple, qu'un photon se comporte à la fois comme une onde et comme une matière. Et donc, on peut diviser ce qui est censé être l'élément primal, finalement, d'un photon, donc un élément lumineux, il se comporte à la fois comme une unité d'énergie et à la fois comme une onde. Et c'est très particulier parce que finalement, on se rend bien compte qu'on ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne tout ça. On a des théories, bien sûr, on a tous eu des cours de physique et de chimie où on nous a expliqué le système d'atomes, le système d'équilibre atomique, le système d'équilibre électron, neutron, proton, etc. Oui, c'est vrai, par contre, il y a quand même encore des choses qu'on n'existe pas, qu'on ne comprend pas et qui peut-être n'existent pas parce que on n'en a pas pris conscience. C'était le cas du boson de Higgs, par exemple, qui a été découvert alors que ça faisait des années qu'on se demandait comment une particule énergétique pouvait stabiliser tout un système. Et alors attention, là je commence déjà à m'avancer sur un terrain où j'y connais pas grand-chose. Moi ça m'intéresse, mais vraiment je pourrais pas en parler pendant des heures. Je suis juste très curieux de tout ça. Et voilà, chacun en fonction de son niveau de connaissance, chacun en fonction de son intuition surtout, va trouver finalement de manière parfois même inconsciente, ce qui est juste, et le simple fait de rentrer dans une démarche ouverte, pragmatique plutôt que sceptique, va permettre d'expérimenter la chose, et au bout d'un moment, peut-être de prendre une décision, tiens, est-ce que ça a du sens pour moi, ou est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que ça me fait du bien, ou est-ce que ça n'en fait pas? Alors évidemment, si on fonctionne dans l'état d'esprit où on attend de ça les mêmes effets qu'un antidouleur, par exemple, c'est un peu dommage, mais malheureusement, ça va pas se faire tout de suite. Surtout qu'on a été conditionné pour avoir finalement le moins de douleur possible. Avaler une pilule dès que c'est nécessaire, ou en tout cas essayer d'évacuer la douleur, en tout cas s'en débarrasser le plus vite possible. Et c'est valable pour quasiment tout. Mais en fait, on le fait pas volontairement, on repose sur des éléments extérieurs qui nous mettent dans un système de consommation. Alors là, je m'engage vraiment sur une voie un peu délicate, mais c'est quand même ce que je pense, c'est que finalement, tout ce qu'on n'arrive pas à gérer soi-même, nous rend dépendants des autres. Alors j'ai pas de souci avec le fait d'être en relation avec l'autre, par contre j'ai un souci avec la dépendance. Simplement, le système économique dans lequel on vit aujourd'hui nous pousse finalement à nous mettre dans un état hypnotique devant une télévision avec des effets stroboscopiques, avec des images qui défilent, etc. On utilise toute la puissance de notre cerveau pour nous capter l'attention et nous faire rentrer des messages subliminaux. Pas si subliminaux que ça, mais quand même, de toute façon, il y a des tests qui ont été faits où on se rend bien compte qu'en fait on peut faire passer des images de manière très très inconsciente, ou des envies et faire naître des désirs de manière inconsciente chez quelqu'un, juste en le bombardant de stimuli qui le font converger, par exemple, pour boire du Coca-Cola. Il y avait des publicités encore plus insidieuses avant ça, c'est que on faisait passer, par exemple, une image toutes les 25 images, qui représentait une image, par exemple, d'une boisson, et ça a été interdit maintenant, ça fait longtemps d'ailleurs, ça a été interdit, et heureusement, mais en fait, notre cerveau capte ces images, même si on ne s'en rend pas compte consciemment, notre cerveau capte ces images et ça va le conditionner. Tout comme on a été conditionné, par exemple, quand on ne sait pas par défaut quoi demander à boire, la première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est le Coca-Cola. Simplement parce que depuis l'enfance, en fait, le fait d'associer une boisson à une ambiance un peu détendue, un peu festive, c'est dans toutes les publicités depuis toujours, c'est l'ambiance Coca-Cola, c'est l'ambiance où le bonheur, c'est accompagné d'une boisson, c'est Coca. Et du coup, inconsciemment, on a relié ce plaisir à cette boisson-là. C'est pas le cas pour tout le monde, pour d'autres personnes c'est relié à l'alcool, pour d'autres personnes c'est relié à la cigarette, etc. Ou même les trois, pourquoi pas. Mais au final, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'on peut reprendre le pouvoir sur soi-même. Et pour ma part, je consomme de moins en moins de médicaments au fil du temps. D'ailleurs, quand j'en utilise, c'est plutôt des produits essentiels du style des huiles et des choses comme ça, parce que je me rends compte en fait qu'on est dans un système de dépendance qui nous fait pas avancer. Et qu'est-ce qu'on fait avec un médicament? On cache le symptôme, on va pas à la source. Par contre, en se mettant dans un état de connexion avec son corps, en étant en lien complet avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit, en prenant la pleine responsabilité de ça et en essayant de se soigner. De se soigner, non pas, je dis pas qu'on a la capacité de se soigner à tous les niveaux. Si on s'est cassé une jambe, il faut effectivement aller se faire remettre ça en place et puis ensuite, bah, peut-être qu'on peut méditer pour gérer la douleur et favoriser justement la restructuration. Si on s'est coupé, c'est pareil, il faudra peut-être recoudre parce qu'il faut pas rigoler avec ce genre de choses. Une dent cassée, ben, ça doit être réparé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nécessitent une intervention physique et médicalisée. Peut-être même dans certains cas un accompagnement médicamenteux. Par contre, on peut favoriser les choses et peut-être même diminuer, je crois, l'accompagnement en termes de médicaments à partir du moment où on se met dans un état d'esprit. Et ce qui a déjà été remarqué, c'est que les personnes qui sont saines avec un état d'esprit sain, alors sain, ça veut dire positif, hein, un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire un esprit positif, quelqu'un de joyeux, eh bien, va avoir beaucoup plus de facilité en fait à se remettre face aux agressions bactériennes. Après, il y a des théories. Bon, ça c'est un petit peu délicat aussi. Il y a des gens qui ont été emprisonnés il n'y a pas très longtemps en fait pour ça. Il y a une théorie en fait qu'on appelle le décodage biologique qui explique que bah, finalement les maladies ne sont jamais que des choses contrôlées par notre cerveau qui vont permettre en phase chaude de résoudre un problème auquel on a dû s'adapter ou se suradapter pour survivre. Après, c'est une théorie, on en pense ce qu'on veut. Bon, bah, voilà, moi je me suis un petit peu intéressé à la question. J'en ai fait ce que ça m'intéresse de faire pour moi et puis bon, voilà, j'ai vérifié certaines parties. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et puis il y en a d'autres avec lesquelles je suis inspiré et je me sens à l'aise et du coup, bah, voilà, ça me permet d'exercer ma propre médecine, ma médecine du corps. L'intelligence de notre corps est assez incroyable. Il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que notre cerveau a des capacités vraiment, pour 95% complètement inconscientes, mais c'est lui qui va doser la quantité de sang qu'il faut mettre pour pressuriser notre système veineux. C'est lui qui va mesurer qui va mesurer quasiment tout en fait. Il va tout contrôler. C'est l'ordinateur central. C'est un truc de fou. Le nombre de battements par seconde, la pression au niveau des yeux, la manière d'interpréter les signaux au niveau électrique et les transformations. Enfin, bon, c'est un truc de fou. Quand on y réfléchit, c'est un truc de fou. On a des capacités humaines qui pourraient paraître quasiment surhumaines quand on analyse bien la chose. Le simple fait, par exemple, de pouvoir générer des impulsions électriques et de les faire transiter à travers notre corps sans qu'on s'en rende compte, et finalement, c'est assez fou. On est quand même composé à 90% d'eau. Et voilà, il y a toute une intelligence là derrière. Depuis la naissance, il y a quelque chose de magique qui s'est opéré. Mais même avant ça, hein, avant la naissance, quand on y réfléchit, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et sur 7 milliards d'êtres humains, on est tous des gagnants parce que les conditions pour qu'une fécondation se produise sont quand même assez rares. En tout cas, c'est plus, on a plus de chances de gagner au loto que d'obtenir une fécondation, paraît-il. Et au final, ça n'empêche pas un spermatozoïde d'atteindre l'ovule et de la féconder, malgré des conditions très 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 opposées à son évolution pour pouvoir aller la féconder. Eh bien, ça se produit. Donc, on est tous des gagnants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a une force de vie, il y a une pulsion de vie en nous, quelque chose d'incroyable. Et on s'en rend pas toujours compte. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et que derrière ça, en fait, la méditation va nous permettre d'être en lien avec cette force naturelle qui est en nous, qui nous habite tous et qui nous tient en vie, en fait. Et cette force, en fait, si on veut bien la reconnaître là où elle se trouve, sans lui donner sans la prier comme un dieu et sans commencer à se vautrer dans tous les sens ou, enfin, je ne sais pas, moi, il y a parfois des dérives par rapport à ça. Je parle même pas de croyances religieuses, mais je crois vraiment que derrière tout ça, il y a quelque chose de magnifique, même si c'est hasardeux, même si c'est difficile, en fait, d'expliquer ce qui se passe, il y a quelque chose de magnifique qui est là, qui est en chacun de nous et qui nous humanise à tel point qu'en fait, on nous humanise dans la puissance du terme. Et pas dans le terme dégradant, on n'est pas juste fragile, on est aussi exceptionnellement fort. On a une capacité d'adaptation incroyable à notre environnement, mais aussi une capacité d'adaptation interne, quelque chose d'incroyable. Et quand on y songe, en fait, cette capacité d'adaptation, c'est une forme de guérison d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que la guérison? C'est jamais qu'une adaptation qui se passe bien. Il y a le contraire, on n'appellera pas guérison, qui est une adaptation qui se passe mal. En tout cas, qui semble se passer mal, puisqu'on n'a pas suffisamment de recul pour comprendre l'intérêt en fait d'un symptôme ou des choses comme ça. Pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est chaque symptôme a une symbolique qui est juste par rapport, enfin une symbolique, une justification qui semble juste par rapport à notre corps. Et ça vient peut-être parler des mémoires qui sont enregistrées, des codes sources qui sont lus sur notre ADN, qui nous appartient pas. Au départ, l'ADN est issu de croisements d'autres ADN, et finalement, de génération en génération, il est transmis. Donc on va exécuter des codes sources qui sont pas nécessairement les bons programmes pour le monde dans lequel on vit. Et donc ça va forcément générer parfois des comportements au niveau du corps, mais peut-être aussi sur le plan émotionnel, peut-être aussi sur le plan intellectuel, sur le plan des perceptions, sur le plan de la vision du monde, ça va peut-être générer des comportements qui sont inadaptés par rapport au monde extérieur. Et inadapté signifie qu'il n'y a pas d'adaptation, en tout cas pas la bonne adaptation telle qu'elle pourrait nous faire du bien. Et c'est peut-être là justement qu'il se passe quelque chose. Après, c'est juste une proposition, une piste de réflexion, moi je n'impose rien du tout. Pour ceux que ça gêne, on n'est pas obligé d'en tenir compte, c'est juste une proposition. Et pour ceux qui ont envie d'essayer, je pense vraiment que méditer, c'est vraiment une manière de rentrer en contact avec ça, de rentrer en contact avec une part de soi qui permet au fil du temps en fait de découvrir une approche qui nous convient. Et c'est vraiment quelque chose d'individuel. Il n'y a personne qui peut nous dire comment on doit méditer. On peut nous donner des pistes, on peut nous faire des propositions et à partir de là, choisir ce qui nous convient. Et ça, pour moi, c'est vraiment être pragmatique sans être dépendant de quelqu'un et en ayant la capacité, finalement, de générer son état de pleine conscience quand on en a besoin et aussi d'atteindre la détente ou même de favoriser la guérison du corps simplement. Et ça peut être une guérison sous toutes les formes, hein. C'est pas seulement des symptômes physiques, ça peut être émotionnel, ça peut être les pensées, ça peut être les idées, c'est à tous les niveaux. Mais voilà, moi j'ai simplement cette proposition à la faire, c'est d'explorer ce que c'est que la méditation à travers la respiration. Pour moi c'est une clé, ça active le système parasympathique, et à partir de là, il y a plein de choses qui vont se passer en cascade, et ça vaut le coup d'essayer. Un essai va peut-être pas être très concluant, surtout si on se sent fatigué après ça. Par contre, 10, 15, 20, 30 essais vont forcément, je crois, apporter quelque chose de différent. Et moi je connais des gens qui aujourd'hui, et je fais partie de ces gens, sont capables de faire une respiration profonde pour se détendre extrêmement profondément. C'est pas toujours le cas, ça dépend un peu des conditions extérieures, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. Et si je me permets aujourd'hui de parler de la méditation, c'est parce que on en parle quasiment partout, mais elle est difficile à recevoir. Pour beaucoup de gens, on voudrait bien apprendre à méditer, mais on n'y croit pas trop, on voit pas les effets, c'est pas prouvé. Pourtant, il y a des études neuroscientifiques qui ont montré notamment qu'on pouvait reconfigurer notre cortex cérébral en 21 jours de méditation. Ce qui est quand même pas mal. 21 jours, il faut les faire. Mais méditer tous les jours, c'est déjà un bon exercice et c'est peut-être aussi une capacité d'adaptation à son environnement qui est largement supérieure. En tout cas, il n'y a rien à faire en termes de détente. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe et cette détente va être à l'origine évidemment d'une autre perception du monde et peut-être de créativité, peut-être de prise de décision plus rapide, peut-être de recul par rapport à des événements qui nous touchent trop fort et qui nous font surréagir puisqu'ils nous touchent trop fort, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler de méditation, voilà je l'ai fait, c'est tout à fait en lien avec la gestion du temps et l'optimisation du temps puisqu'en fait ça parle de gestion de soi et d'optimisation de soi qui est complètement lié. Et puis en fait il y a autre chose, c'est que la notion de temps en fait en méditation peut disparaître. Ça, c'est assez particulier. Alors, il y en a qui fument des substances ou qui consomment des substances pour ressentir ça. La méditation, ça m'est déjà arrivé, en fait, me fait perdre la notion du temps. Une minute peut devenir une heure et inversement. Et c'est toujours impressionnant, en fait, de perdre la notion du temps et de voir dans quel état on peut ressortir d'un processus de méditation. Maintenant, voilà, je vous parle là de mon expérience et je vous invite vraiment à faire la vôtre. Lisez des choses à ce sujet, faites des tests, suivez des méditations en ligne, voyez ce que ça vous apporte. Et trouvez celles qui vous conviennent, pas nécessairement ésotériques ni religieuses, ça peut être même simplement une musique qui vous transporte. Après moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents à tout ça. On peut s'inventer sa propre musique, on peut faire son truc tout seul, même sans musique. Moi je le fais aujourd'hui sans rien, sans aucun support. La seule chose que j'utilise c'est du bruit blanc. C'est-à-dire que je mets des écouteurs Bose qui ont la capacité en fait de me couper du monde extérieur. Et donc en fait simplement ils bloquent les bruits extérieurs. Et y a une couche logicielle qui va faire en sorte que je n'entends que du bruit blanc, donc un léger souffle, et c'est la seule chose dont j'ai besoin. Donc j'ai fait un investissement de 250 € à l'époque où j'ai acheté ces écouteurs, notamment parce que quand j'ai besoin de dormir et que j'entends du bruit autour de moi, ça me gêne, donc je les mets pour pouvoir dormir au départ, et puis pour prendre l'avion, parce que dormir dans l'avion c'est quand même plus sympa quand on fait des voyages de plusieurs dizaines d'heures, et ces écouteurs sont vraiment vraiment magiques à ce niveau-là. Mais en fait ils émettent un léger bruit de fond, très très léger, un léger j'essouffle, un peu comme les cassettes audio qu'on avait à l'époque. Bon, il y a peut-être des gens parmi vous qui m'écoutaient qui comprennent pas ce que c'est, mais cassettes audio, il y avait toujours un léger souffle, en fait. Même si c'était des cassettes au chrome dioxyde, il y avait toujours un léger souffle. Ben, c'est ça en permanence. Et en fait, c'est très, très agréable. Ça peut paraître un peu désagréable au début, il faut s'habituer, mais en fait, c'est très, très agréable. Et ça permet justement de rester sur une onde assez neutre, finalement, et à un moment, on l'entend plus, en fait. En tout cas, pour moi, je l'entends pas. Et j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, et effectivement, on l'entend pas. Donc voilà, je vous propose d'explorer ça, essayez la méditation, pour moi c'est plein de bienfaits. En tout cas, voilà, aujourd'hui je peux gérer un mal de crâne juste en méditant. C'est ce qui m'arrive le plus fréquemment encore, ou les petits bobos à gauche à droite. Après, bon voilà, ça va jamais empêcher une grippe de s'éclairer, hein. Quoique, c'est pas sûr encore. Moi en tout cas je trouve que mon état de santé depuis que je médite est largement supérieur à celui que j'avais quand je méditais pas. Maintenant pour moi c'est un ensemble de choses. Un esprit sain dans un corps sain, ça part avec une détente, avec une gestion de soi, avec une organisation de soi, une satisfaction personnelle et plein de choses. Moi je connais des situations parfois où des gens sont tout étonnés parce que ils avaient un mal de gorge et puis ils passent un super bon moment où ils sont très joyeux, très heureux. Le lendemain, ils ont dormi très peu et en fait tout a disparu. Voilà, ça aussi c'est un des aspects de notre guérison. C'est que parfois le simple fait d'être bien avec soi va générer un état de santé qui colle à cette situation et qui est tout à fait juste. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à ce sujet, vous n'hésitez pas, hein. Moi j'essaie de couvrir ça en très largement, je veux dire. J'ai pas envie de commencer à jouer les gourous et à proposer une méditation, même si ça peut être très rigolo, je l'ai déjà fait. Pas jouer les gourous, mais proposer une méditation guidée. Après ça parle à chacun ou pas, mais je compte pas le faire, en tout cas en podcast pour l'instant. Voilà, je vous retrouve dans le prochain podcast, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.